Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler de mastodontes modernes qui concentrent des montagnes de savoir, des merveilles de technologie, des sommets d'humanité, des abîmes de souffrance et qui sont aussi souvent des gouffres financiers. Mais de quoi est-ce qu'il nous parle, allez-vous dire? Eh bien, des hôpitaux auxquels nos sociétés modernes, même dans les pays les plus pauvres, consacrent beaucoup d'argent pour maintenir les citoyens que nous sommes en bonne santé. Mais cela ne va pas sans difficultés, et ces difficultés sont universelles. En France, médecins hospitaliers et infirmières sont au point de rupture. Les directeurs d'hôpitaux, parfois vilipendés, se plaignent d'être de commodes boucs émissaires. Les gouvernants se voient reprocher une gestion purement comptable. Et les patients regrettent la concentration des soins hospitaliers dans de grandes infrastructures au détriment de la proximité. Cette description, nous la peaufinerons, nous la compléterons, nous l'approfondirons. Nous la démentirons éventuellement avec nos trois invités. Et d'abord avec vous, professeur Michael Perromort, bonjour.
Bonjour.
Professeur Perromort, vous êtes médecin, chirurgien, chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin dans le 14e arrondissement de Paris. Vous êtes le co-auteur d'un livre qui s'appelle Le Stade 2 aux éditions Plomb. C'est un livre écrit avec un de vos patients, le journaliste Patrick Chen, dans lequel celui-ci tient le journal du malade qu'il a été entre vos mains. Ses billets alternent avec vos analyse de la réalité hospitalière française, une réalité dont nous parlerons avec vous aussi, Zeynep Or, bonjour.
Bonjour.
Zeynep Or, vous êtes économiste, directrice de recherche à l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, l'IRDES, membre du laboratoire d'économie de l'Université de Paris-Dauphine, où vous êtes professeur associé. Vous êtes l'auteur de très nombreux articles sur l'économie hospitalière et l'économie de la santé, le dernier en date dans The European Journal of Health Economics, est consacré au traitement des maladies chroniques en milieu hospitalier, mais il y en a des dizaines d'autres. Et je termine ce premier tour de table par vous, Karine Milsan, bonjour.
Bonjour.
Karine Milsan, vous êtes professeure associée à l'École d'économie de Paris, chercheure au CNRS, vice-présidente du conseil scientifique de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages consacrés à ces questions, en particulier un livre rédigé en anglais intitulé « Competition between hospitals » Does it affect quality of care aux éditions Rudulm et d'un second ouvrage, toujours en anglais, aux éditions Springer et consacré à la réforme de la santé en Chine. Donc, bien sûr, nous ne parlerons pas que de la situation hospitalière française. Nous verrons comment, ici et ailleurs, les systèmes de santé affrontent ce défi des soins opératoires et s'il y a une crise ou une difficulté hospitalière mondiale, nous le ferons ici à Paris avec des reportages du Service France et avec nos correspondants Noé Ochebaudin en Afrique du Sud et Alice Campagnol en Bolivie. Professeur Perromort, de quelle manière le médecin, le chirurgien, le chef de service hospitalier que vous êtes, est-il confronté à la réalité économique, aux contingences économiques des hôpitaux ?
C'est vrai que ces 10 dernières années, et ça va de plus en plus vite, il n'y a pas une seule réunion à l'hôpital qui ne commence sans la phrase suivante « il faut faire des économies ». C'est quelque chose qui était relativement absent du débat quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital, puisque notre seule préoccupation était de nous occuper des patients et les discussions d'ailleurs tournaient autour des soins. Et là, plus récemment, en effet, il y a eu une imprégnation du quotidien par les questions économiques, c'est évident.
Mais outre ces réunions, comment faites-vous ces économies ? Est-ce que vous obtempérez ?
Elles nous sont imposées. De toute façon, vous savez que le pouvoir a été récemment donné à l'administration et c'est maintenant elle qui tient les rênes, j'ai envie de dire malheureusement, pour certains sujets. Et donc, on nous retire régulièrement du personnel, on ferme des lits, il devient très difficile d'avoir du matériel, ne serait-ce que pour les soins courants. Et donc, on vit une espèce de tragédie quotidienne dans notre service, mais comme à mon avis dans tous les hôpitaux et même dans tous les établissements de soins privés en France, il y a à l'évidence une austérité budgétaire qui s'est abattue sur les centres de soins.
Pourtant, il y a beaucoup d'argent qui est mis par l'État, par les sécurités sociales, dans les hôpitaux, le budget est de 82 milliards d'euros par an.
Tout à fait. Non, mais moi, je pense que, en fait, on pourrait faire davantage d'économies. C'est simplement qu'elles sont mal ciblées, de mon point de vue. J'observe qu'on fait des économies de bout de chandelle en supprimant un kiné, par exemple, dans un service de gériatrie, alors qu'il est absolument indispensable. Mais à l'inverse, on passe des mois à définir des procédures et à engager des administratifs qui vont parler de choses qui sont tout simplement en dehors du quotidien. Donc, d'un côté, on fait des économies sévères sur des choses qui nous paraissent indispensables et qui concernent les patients et les soins. Et de l'autre, on dépense beaucoup trop d'argent, à mon avis, à des procédures abstraites.
Dans ce livre, Le Stade 2, que j'ai cité, vous évoquez vos débuts aux côtés du professeur Bernard Debré, qui était un grand urologue aussi, qui a été ministre, qui avait donc une espèce de surface politique aussi, et que jamais on lui aurait imposé ce genre de discipline budgétaire qu'on vous impose à vous.
Exactement. Je pense qu'à l'époque, c'était quand même il y a 15-20 ans, les finances publiques étaient sans doute en moins mauvais état, ou en tout cas, on ne le savait pas encore. Et je vous dis, les soins étaient prioritaires. On ne s'occupait moins à l'époque des questions comptables.
Mais ces jours-ci, par exemple, est-ce qu'il vous est arrivé de renoncer à soigner quelqu'un ou de le soigner moins bien?
Bien
pour
sûr.
Des raisons économiques.
Mais bien sûr, tous les jours, il y a des gens qui sont hospitalisés aux urgences depuis 48 heures, qui doivent avoir une intervention chirurgicale, mais faute de lit disponible ou faute de place au bloc opératoire, restent dans un lit aux urgences alors qu'ils devraient être opérés rapidement.
Par vous?
Oui, par moi ou mon équipe. Mais c'est le quotidien.
Zeneport, cette réalité économique, est-ce que vous la décrivez en long, en large, en travers dans vos études?
Il faut des chiffres. Donc, comme vous avez dit vous-même, en fait, en France, on consacre beaucoup plus que par rapport aux autres pays à l'hôpital, dans notre système de santé. L'hôpital, c'est un acteur parmi d'autres pour soigner les patients. Donc, il a un rôle. Je pense que les choses sont... ne fonctionne pas bien. C'est pas parce qu'on n'a pas assez de ressources pour l'hôpital, mais on l'utilise mal. Parce que des fois, quand on dit on nous coupe des lits, il n'y a pas assez de lits, je pense qu'on a beaucoup de lits en France, de l'hôpital. Après, est-ce qu'on les utilise bien ou pas bien? Et il s'agit de questions de pertinence de soins, parce qu'on fait aussi beaucoup de soins qui ne sont pas pertinents, donc c'est un grand sujet actuellement. Nous avons nous-mêmes beaucoup travaillé et montré justement des différences départementales dans le taux à des chirurgies, toutes choses égales par ailleurs, pour des patients qui n'ont doivent pas avoir lieu.
C'est-à-dire qu'on soigne des gens qui ne devraient pas être soignés, qu'on impose des soins qui ne devraient pas être.
Oui, tout à fait.
Qu'on dépense de l'argent, donc.
Tout à fait.
Pour quelle raison?
Parce que c'est des cultures médicales, et s'il y a une offre de soins, on sait par ailleurs que où on crée un lit, on le remplit. Donc ça, c'est une réalité économique et médicale aussi. Je pense que ça, c'est la même chose qu'on ne sait. Et donc, c'est pour ça que c'est pas si simple que ça, de dire qu'on doit donner plus à l'hôpital pour soigner mieux. Aussi, je voudrais souligner ceci, parce que partout, dans tous les pays industrialisés, maintenant, le sujet est de pouvoir réduire les hospitalisations. Ça, c'est une question, parce qu'on a des pressions en France sur l'hôpital qui ne doivent pas avoir lieu parce qu'on ne fait pas les choses bien ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? C'est soins primaires, soins médico-sociaux, parce que nous avons de plus en plus des populations âgées avec des problèmes chroniques. Ils ne doivent pas se trouver à l'hôpital. Donc, quand on ne fait pas bien les choses ailleurs, on se trouve à l'hôpital. De point de vue économique, ceci est inefficience pour le système de santé, parce que l'hôpital, comme vous dites, c'est un centre d'excellence. Il doit s'en occuper des cas complexes et qui nécessitent des soins spécialisés. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense que la réalité est qu'on soigne beaucoup de cas qui ne doivent pas être à l'hôpital.
Karine Milson, c'est ça qui plombe les hôpitaux français, c'est qu'on y soigne beaucoup de petites grippes et d'entorses alors qu'on devrait consacrer l'argent public à d'autres choses?
Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Je pense qu'il y a une évolution du système de santé, effectivement à un niveau international. Je ne pense pas qu'on cherche à réduire l'hospitalisation. Je pense qu'on cherche à réduire la durée de séjour. On cherche à changer le parcours de soins. Donc, c'est pas l'hôpital pour l'hôpital, c'est comment est-ce que le patient va être dirigé dans ce parcours de soins. Et donc, pendant, on parlait d'il y a 20 ans, je pense que l'hôpital était un endroit où on y rentrait quand on avait une maladie grave, qu'on ne pouvait pas traiter en ambulatoire, et qu'ensuite, on était traité pour cette maladie grave, plus ou moins grave, hein, avec des nouveaux différents niveaux de gravité, et on en sortait quand on était complètement guéri. Aujourd'hui, il y a acceptation que une journée à l'hôpital coûte cher. Donc ça va coûter presque autant de rester le premier jour d'hospitalisation, où on a droit au deuxième jour, si vous voulez, au moment où on a droit à l'opération, que à la fin de ces longues durées qu'il y avait il y a 20 ans. Pourquoi ? C'est parce que les équipements hospitaliers sont de plus en plus lourds, de plus en plus coûteux. Et donc, il faut imaginer l'amortissement. Et l'amortissement, vous allez le mettre à chaque jour. Et donc, même si l'individu, le patient, n'utilise pas les équipements en question, ça va être imputable à sa journée d'hospitalisation. Donc, il y a idée qu'il faut sortir le patient dès qu'il a reçu l'acte technique ou la capacité humaine, hein, la technique, c'est pas forcément que des machines, il y a des hommes derrière. Dès qu'il a, il a eu droit, en fait, à ces actes techniques, eh bien, il faut le sortir pour l'amener dans des structures qui n'ont pas ces équipements. Et donc, pour lesquelles la durée sera pas la même. Mais ça implique d'avoir un tissu de soins suffisamment développé, avec une certaine proximité, entre l'hôpital, mais également la proximité de là où habite l'individu, pour pouvoir assurer tout ça.
Professeur Perromant, vous avez l'impression que l'hôpital et vous êtes devenus les esclaves de ces machines, et de la rentabilité et du coût de ces machines ?
Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi l'hôpital est saturé ? Parce qu'on y met trop de gens qui n'ont rien à y faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que maintenant, on voit en consultation dans un CHU parisien des dames, par exemple, qui viennent pour une simple cystite en consultation, alors que ça relève parfaitement de la médecine générale. Et donc, le vrai sujet, en effet, pour désengorger l'hôpital, c'est de remettre des soins de proximité ailleurs sur le territoire. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord.
Alors, dans les hôpitaux français, l'un des services qui est soumis aux pressions les plus fortes, c'est le service des urgences. À Paris, ces services sont en grève depuis le début de la semaine. Un appel à la grève avait été lancé à destination des 100 000 personnels des hôpitaux publics parisiens pour la journée d'hier vendredi. Écoutez ce reportage de Laurence Théo du service France de RFI dans un des premiers services d'urgence à avoir dit sa colère à l'hôpital Saint-Antoine.
Malgré le froid sec qui tient tête au printemps, Viviana est sortie devant l'hôpital en blouse blanche et en sabots. Avec 200 passages de patients par jour, le service des urgences de Saint-Antoine est en saturation permanente. La jeune infirmière dénonce la dégradation de la qualité des soins.
J'ai l'impression de faire un travail de merde. Là, à l'heure actuelle, dans certaines situations, notamment les jours où le flux est beaucoup plus tendu, j'ai plus l'impression de limiter la casse que de fournir un travail correct et digne.
Autre symptôme de la crise aux urgences, le personnel est régulièrement agressé. Aïcha Hakoun est infirmière et déléguée syndicale à la CGT.
J'ai l'impression que ça s'amplifie de plus en plus parce que justement, nous manquons de moyens, nous manquons de médecins en ville, nous manquons de structures médicales et paramédicales. Et du coup, ça crée une détention et ça crée de la violence parce qu'on ne répond pas à la demande. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus exacerbé qu'il y a 10 ans. Parce que des nombreux services ont fermé, des lits ont été supprimés et du personnel a été supprimé aussi.
Pour désamorcer la crise, la direction des hôpitaux publics de Paris promet des renforts, 45 postes supplémentaires sur 25 services parisiens, insuffisants pour les grévistes.
La situation dans les services d'urgence, on en parlait le 13 mars dernier, déjà sur RFI, dans un grand reportage signé Laura Martel. Et déjà, il y était question donc des urgences parisiennes. Un extrait de ce reportage à Créteil.
Mais je suis déjà pardon.
Les esprits s'échauffent devant le guichet d'admission du CHIC, le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Pourtant, le gros de l'épidémie de grippe est passé et en ce premier jour de vacances scolaires, on est loin des pics d'affluence. Dans la salle d'attente, Gérard patiente, résigné.
J'ai accompagné un élément de la famille suite à une chute. On nous a pris en charge à l'administration, il était 14h15 et je suis toujours là. Il est 17h50. Il faut beaucoup de patience. J'ai un âge qui fait que j'ai connu les urgences à une autre époque. Les urgences, il y a 40-50 ans, on n'attendait pas 2 heures comme ça. Qu'est-ce que je dis ? 3 heures. Les urgences, on a été pris dans le quart d'heure qui suivait. C'était réglé. En 1 heure de temps, c'était plié. Aujourd'hui, 3 heures et demie plus tard, on est là.
Avec 120 à 125 000 passages par an, le CHIC est le plus important service d'urgence du Val-de-Marne. Et chaque année, le nombre de patients augmente, explique son directeur Stéphane Pardoux.
Au centre hospital intercommunal de Créteil, comme chez nos voisins et amis de l'hôpital Henri Mondor, comme partout en France, l'activité aux urgences ne cesse d'augmenter. Sur 2018, le volume de passages aux urgences adultes, ne prenons que l'adulte, a augmenté de 5%. En moyenne, nous sommes systématiquement sur une tendance d'évolution de l'ordre de 3 à 4% au global. Chaque année, nous sommes sur une courbe ascendante du volume de passages aux urgences. Chaque année. Je pense que cette augmentation du passage aux urgences est d'abord à mettre sur le compte d'une diminution de l'offre de soins de premier recours, donc des médecins généralistes implantés en ville, puisque cette diminution, elle se voit dans les chiffres, elle est réelle à Créteil, et elle amène mécaniquement nos concitoyens qui ont besoin d'un premier examen médical assez rapide à se tourner vers nos services d'urgence.
Reportage de donc signé Laura Martel et Laurence Théo dans les services d'urgence parisiens. Est-ce que cette situation est emblématique, professeur Perromort, dans les urgences de ce que vous connaissez, vous, au quotidien, dans votre service d'urologie ?
Oui, bien sûr. Je crois que c'est un phénomène général. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse. Je trouve que le monsieur qui s'exprimait tout à l'heure ne manque pas de toupet. On ne va pas aux urgences comme on va au supermarché pour être servi tout de suite. On va aux urgences quand on a un problème sérieux et il faut pouvoir attendre 2, 3, 4, 6 heures s'il le faut. Cela étant dit, il existe aussi des situations dramatiques où il y a véritablement des gens qui dorment sur des brancards et qui passent 24 ou 48 heures aux urgences, faute de place en aval. Donc, on a un petit peu de tout et il faut pas être caricatural. Je voudrais juste insister sur un autre phénomène qui explique aussi cet afflux massif aux urgences. Il y a bien sûr une réduction de l'offre de soins primaires, ça c'est une réalité.
Des médecins de ville.
Oui, tout à fait, et des petites structures en général. Mais il y a aussi un phénomène qu'il faudrait que les gens réalisent, c'est cette propension qu'ont les gens aujourd'hui à consulter tout de suite par inquiétude et par angoisse. Dès qu'un gamin a 38 de fièvre, on va aux urgences. Dès qu'on a un petit bobo parce qu'on s'est cogné sur le poignet, on va aux urgences où on veut être suivi. À une époque, les gens avaient un peu plus de recul vis-à-vis de ces choses-là. Ils attendaient quelques jours et donc ils étaient moins consommateurs de soins. Ça aussi, ça entre en compte.
C'est ça, Karine Milsan, qui rend l'hôpital très lourd à porter pour la collectivité ?
Je pense effectivement qu'il y a un vrai problème de demande. Si on doit faire... Il y a un problème dans la vision qu'ont les gens dans le parcours de soins. Ils ont un problème et ils veulent que ce problème soit géré de suite. Il n'y a pas l'offre immédiate parce que c'est probablement à une heure qui ne correspond pas ou un jour qui ne correspond pas. Et donc, de ce fait, ils savent que l'hôpital est là pour les accueillir et donc ils vont aux urgences sans penser que, en fonction de leur gravité, ils vont prendre des places dans la liste d'attente par rapport à des gens qui auraient peut-être davantage besoin, qui ont assurément davantage besoin d'aller aux urgences. Je voudrais également rebondir sur cette question de violence, parce que ce comportement en fait très consumériste amène à grossir les services d'urgence dans la demande, et donc cette très forte demande fait que les gens ont l'impression de ne pas être servis, et ça amène à de la violence. On le voit ailleurs, on le voit de façon exacerbée complètement en Chine, où ça en vient à des tueries même.
Vous voulez dire dans les services d'urgence en Chine ?
Oui, dans les services et dans les hôpitaux. Parce que justement, ils y auraient répondu en fait en empêchant les gens d'y aller et en créant des tickets internet.
C'est-à-dire qu'avant d'aller au service d'urgence, il faut s'inscrire ?
Exactement. Vous inscrivez comme si vous vous déplaciez, sauf que vous le faites virtuellement pour en fait éviter que les gens soient physiquement là et que la masse fasse qu'il y ait une espèce de tension qui se mette à apparaître.
Mais donc c'est quelque chose... les gens attendent chez eux comme on peut attendre aujourd'hui dans certains musées l'heure de se présenter pour faire la visite.
Alors ils y vont en fonction du niveau de gravité et après donc ils peuvent aussi avoir une consultation virtuelle dans certains cas, mais oui, il y a cette idée d'utiliser en fait la partie digitale, la santé, partie digitale de la santé pour parer à cette masse de demandes et qui amène à cette forte demande, à cette forte violence.
Mais est-ce que les hôpitaux chinois, le système de santé chinois, Karine Milsand, fait face aux mêmes défis économiques que les hôpitaux français?
C'est exacerbé, c'est rien à voir. Enfin, c'est à un niveau tel que si ça devait arriver en France, ce serait juste pas tolérable. Donc, il y a un vrai problème d'accès aux soins. Chez nous, il n'y a pas à ce point un problème d'accès aux soins. Seulement, ce comportement consumériste nous amène à avoir quelque chose de parallèle, une situation relativement parallèle, ce qui est un peu triste.
Zenapor,
je suis d'accord avec Karine, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de demande, mais je voudrais quand même souligner que ce problème de demande est beaucoup lié à l'offre aussi. Et vous avez déjà dit, effectivement, il y a
certains... Vous vous adressez au professeur Perromand.
Voilà, monsieur Perromand, il a déjà dit que, effectivement, dans certains endroits, il y a un manque de soins de ville, généralistes, alternatifs, aux urgences. Donc les gens, ils se trouvent aux urgences parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais dans un endroit comme Paris, nous avons quand même plus de médecins généralistes ou spécialistes en ville qu'ailleurs. On se trouve toujours aux urgences. C'est arrivé même cette semaine à un de mes collègues qu'on est quand même la conscience, il ne faut pas y aller. Sauf que quand votre médecin vous dit, juste pour une diarrhée d'un enfant, allez-y à l'hôpital, vous trouvez l'hôpital parce que, voilà, ça c'est pas approprié, ça crée une pression sur l'hôpital, mais je pense que dans ceci, l'organisation de l'offre est importante. Dans l'organisation de l'offre, effectivement, la quantité, mais aussi accessibilité. Quand vous avez un problème également à Paris, à 20 heures de soins ou samedi matin, vous vous trouvez à l'hôpital, même si vous avez un pédiatre, même si vous avez un médecin traitant, tout ce que vous voulez, parce qu'ils ne sont pas accessibles. Il n'y a pas possible d'appeler son médecin, dans la plupart des cas, etc. Donc, en fait, il y a des pays comme Angleterre, Pays-Bas, ils s'en sortent avec moins de médecins, avec moins d'urgences, parce que le système est fait que... Vous avez des heures de pointe, les soirs, accès, vous pouvez avoir une consultation. Des fois, ça suffit de se rassurer avec une petite consultation téléphonique, de dire, mais calmez-vous, madame, voilà, pour une personne en problème respiratoire âgé, par exemple, de dire que vous pouvez consulter votre oxygène, si au-dessus de ça, faites ceci, si au-dessus, faites cela, etc. Mais quand vous n'avez pas cette possibilité, vous vous trouvez aux urgences. Il y a des enquêtes de l'adresse, et le département de recherche du ministère de la Santé, qui montre que à peu près 2/3 des gens, ils se trouvent aux urgences et parce qu'ils pensent que c'était plus facile que faire autre chose. Donc, à partir de là, je pense que oui, certes, il y a un problème de la demande, mais il y a un problème de l'offre ailleurs.
On retrouve un problème économique banal, relancé par l'offre ou par la demande?
Problème économique banal. C'est un problème économique, mais vous avez dit...
En tout cas, pas banal, classique, j'allais dire.
Oui, c'est quelque part classique, mais on parle beaucoup de... Vous avez tout à l'heure dit de réduire les hospitalisations, question de rentabilité, efficience, mais je voudrais quand même souligner que c'est une question de qualité aussi. Comme a dit Karine Milsand, il faut penser, de point de vue de patient, honnêtement, si... J'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, je préfère. Si je peux passer 2 jours à l'hôpital à la place de 10 jours, je pense qu'aujourd'hui, on préfère. C'est vrai qu'il y a peut-être 50 ans, c'était une autre chose. On y allait à l'hôpital pour des problèmes beaucoup plus graves et restait 2 semaines. Mais aujourd'hui, en plus, le progrès technologique fait que pour une prothèse d'ange, il y a à peine 10 ans, on restait à l'hôpital 12 jours à peu près.
Une prothèse de hanche.
Mais aujourd'hui, il y a des nouvelles chirurgies beaucoup moins invasives. Et il se fait qu'on ne coupe plus les muscles, etc. Et en fait, vous pouvez sortir le lendemain et sans problème. Sauf que, effectivement, il y a des variations dans les pratiques, mais de point de vue de patient aussi, l'hôpital représente un risque quand même des infections parce que c'est normal où se trouvent d'autres patients. Donc, il ne faut pas juste penser que c'est une question d'économie, mais c'est aussi une question de qualité de prise en charge.
Professeur Perromand, vous voulez réagir?
Oui, j'aimerais bien. Sur ce sujet-là, Il est tout à fait juste de dire que le progrès technique et de la prise en charge en général permet de raccourcir pour bon nombre de patients les durées d'hospitalisation et donc d'être plus efficient. C'est un progrès pas seulement économique, mais médical aussi. Je suis tout à fait d'accord avec madame. Mais je voudrais aussi souligner qu'il y a une recrudescence de personnes âgées, précaires, polypathologiques, qui rentrent à l'hôpital avec un petit bobo, et qui, chez qui, finalement, on finit par découvrir un diabète déséquilibré, un infarctus du myocarde infraclinique, et des polypathologies comme ça, du fait du vieillissement de la population. Donc je suis tout à fait d'accord qu'on aille vers une réduction des séjours et une suppression des lits pour une certaine proportion de la population qui est en bonne santé et qui a des pathologies, entre guillemets, faciles à gérer. Mais il faut pas oublier tout ce pan de la population et tous ces nouveaux patients qui sont très âgés et polypathologiques, qui embouteillent la plupart des services, comme par exemple le mien en urologie.
Karine Milsan.
Oui, je pense qu'en fait, vous êtes sur deux pans. Vous êtes complémentaires dans vos réponses, autant
c'est-à-dire vos deux interlocuteurs.
Exactement, autant Zeynep Or que monsieur, vous avez une vision. À la fois, il y a l'innovation, mais derrière tout ça, il y a l'organisation des soins. Et je ne pense pas que ce soit un problème offre-demande classique d'économie. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas statique, mais qui est dynamique. Et donc, on ne peut pas régler le problème en posant les choses calmement, en disant voilà comment est la situation, et donc comment on peut y répondre. Puisque la réponse qu'on apportera aujourd'hui ne sera plus le monde qu'on aura demain. Et donc, on a un problème d'organisation des soins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre qui va être faite à ces personnes âgées, à ces gens qui sont en maladie chronique, à ces personnes qui sont dépendantes, ne sera pas suffisante pour réussir à détecter l'ensemble de leurs possibles pathologies. Donc, il y a une séparation qui était normal entre les soins dits primaires, c'est-à-dire les soins de ville, et les soins dits secondaires, c'est pour ça que j'insiste sur primaire-secondaire, qui était l'hospitalisation. Aujourd'hui, en fait, on veut un continuum, ce qui a beaucoup plus de sens par rapport au progrès de la médecine, par rapport à l'innovation. Il y a du sens à vouloir un continuum, et pas quelque chose de 1 et de 2. Mais ce continuum, on est en train de le créer. Et en même temps, on est en train de faire en sorte que l'hôpital se décharge sur ce continuum, qui n'existe pas encore. D'où cette fragilité du système et cette inadéquation entre l'offre et la demande.
Alors la conversation que nous avons en ce moment dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, c'est la conversation de citoyens d'un pays riche, nantis. Il y a beaucoup de pays où les hôpitaux sont rares et ne sont pas accessibles à tous. Par exemple en Afrique du Sud, un des pays les plus inégalitaires au monde, avec un système de santé à deux vitesses, si ce n'est plus. D'un côté, dans les campagnes et les townships, des hôpitaux publics délabrés. De l'autre, dans les quartiers aisés, des cliniques privées flambant neuves. Sur 55 millions de Sud-Africains, 10 seulement ont accès à une assurance maladie. Le reste de la population est condamné à d'interminables heures d'attente et à des frais trop élevés. C'est le cas dans la province du Nord-Ouest, une zone rurale à la frontière avec le Botswana, où s'est rendu l'envoyé spécial des codiciers d'ailleurs, Noé Ocheboda.
Coincé dans la salle d'attente du petit hôpital de Ragnesa, Willy, 59 ans, attend désespérément.
J'étais pris en charge le lundi, mais ça fait deux jours que je n'ai pas de transport pour rentrer chez moi. En attendant, je reste ici.
Et pour cause, Willy habite à 160 km de l'hôpital de Ragnesa, 160 km de route en mauvais état et sans aucun transport officiel du gouvernement. À côté de lui, Beauty vient-elle se faire soigner d'une lombalgie, comme toutes les semaines depuis des années. Un poids financier pour cette mère qui élève seule ses enfants.
C'est compliqué à la maison. Je survis grâce aux aides de l'État pour mes enfants. Quand je viens à l'hôpital, ça me prend 35 minutes et ça me coûte 8 euros. Donc parfois, je dois emprunter de l'argent aux voisins pour venir me faire soigner.
L'hôpital de Ragnesa et ses 9 docteurs sert de référence dans le district sur un rayon de plus de 180 km. Selon son directeur, le docteur Desmond, cette zone trop vaste décourage les patients de venir.
Lorsqu'ils viennent et qu'ils restent à attendre toute la journée, ça ne leur donne pas envie de revenir. Ils vont plutôt opter pour rester chez eux. Et donc, ils reviennent seulement lorsqu'ils n'ont plus le choix, quand ils sont très malades. Les patients atteints de cancer arrivent à un stade terminal. On ne peut rien faire pour eux.
Le gouvernement sud-africain tente pourtant de pallier le manque d'établissements dans les zones rurales.
À cause de la pression de la société civile, le gouvernement construit de plus en plus de cliniques dans les villages. Mais le problème,
problème, c'est la qualité du service, car on a une pénurie de praticiens hospitaliers dans ces communautés.
En effet, les jeunes médecins sont difficiles à attirer, même avec l'augmentation automatique de 18% de leur salaire lorsqu'ils travaillent en zone rurale. Russell Rensberg est directeur de l'ONG Plaidoyer pour une médecine rurale.
La moitié du budget santé va au secteur privé, qui soigne les 15% ou 20% des privilégiés de la population, mais qui utilise plus de 60% des ressources matérielles et humaines. Le résultat, c'est que le secteur public, qui soigne la majorité des Sud-Africains, a moins de ressources, car vous dépensez la même somme pour le privé que pour plus de 4000 établissements publics qui soignent environ 30 millions de personnes.
Un Sud-Africain qui se soigne dans les cliniques privées va dépenser en moyenne entre 10 à 15 fois plus pour sa santé qu'un Sud-Africain qui se soigne dans les établissements publics. Le gouvernement planche alors sur un projet de couverture maladie universelle, un projet trop ambitieux pour beaucoup d'économistes compte tenu de la récession économique l'an dernier.
Un reportage signé Noé Houchet-Baudin dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, où vous l'aurez compris, nous parlons des hôpitaux, de leur financement et de leur fréquentation avec trois invités, le professeur Michael Perron, chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin à Paris, avec Zeynep Or, économiste et directrice de recherche à l'Institut de recherche et de documentation sur l'économie de la santé, et Karine Milsan, professeure associée d'économie à l'école d'économie de Paris et chercheuse au CNRS. Karine Milsan, je vous ai vu réagir à ce reportage sud-africain. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué, qui coïncident avec vos recherches?
En fait, ce qui a été décrit là est quelque chose qui peut être parallèle à un certain nombre de cas dans les pays, même les pays développés. Vous prenez la Chine, dans le milieu rural, c'est complètement similaire. Mais ça, d'un certain côté, c'est comme un cas exacerbé de ce qui peut exister en France. C'est-à-dire que vous avez toujours cette problématique entre la proximité et la qualité. Vous l'avez entendu ici. Les gens disent c'est pas un bon niveau de qualité et donc j'ai un problème sur la qualité des soins qui me sont fournis. Et donc du coup, offrir, et en même temps vous avez quelqu'un qui a expliqué que la zone à servir était beaucoup trop vaste et donc que les gens ne venaient pas et attendaient d'être trop gravement malades, donc incurables, pour venir. Et donc cette balance entre proximité et puis qualité des soins, parce qu'il faut faire des soins, il faut avoir des patients à soigner pour réussir à acquérir une certaine expérience et donc être à même à soigner avec un haut niveau de qualité la patientèle qui va se présenter à vous. Donc voilà, c'est vraiment à mon avis quelque chose qui est bien exprimé ici.
Zeynep Or, vous rencontrez ces problèmes dans vos recherches?
Tout à fait. Ça, c'est. Je voudrais réagir sur une phrase qui est dit. Mais les patients arrivent trop tard. De toute façon, ils sont
soit en phase finale.
Voilà. Là, effectivement, c'est dramatique parce que voilà, il s'agit d'un établissement à 160 kilomètres. Mais même en France, effectivement, je pense que dans les pays, d'autres pays développés.
Lesquels, par exemple?
En Angleterre, ailleurs, Pays-Bas, Italie, on peut voir exactement la même chose. Si on fait pas les choses en amont, effectivement, les patients arrivent trop tard à l'hôpital et que il y a un problème à la fois en termes de qualité de santé, mais aussi en termes d'organisation de soins. C'est pour ça que je veux revenir, c'est ce qu'elle disait, Karine Milsan, sur organisation de parcours de soins. C'est un sujet ici de plus en plus dans tous les pays riches, soi-disant, parce qu'on comprend qu'avec le vieillissement de la population et des augmentation des maladies chroniques, on a besoin de cette coordination entre l'hôpital, ville, médico-social, pour que les choses passent bien et puis chacun a un rôle dans cette prise en charge globale du patient et l'hôpital joue son rôle de spécialiste des soins aigus, passe la main à quelqu'un d'autre. Mais ceci nécessite une certaine collaboration, coopération. Ça, c'est un sujet. Nous avons les ressources dans les pays comme France. On a des ressources. Le reste, c'est une question d'organisation. Les choses sont beaucoup plus dramatiques dans des pays comme la Chine, en Afrique du Sud, ailleurs où les ressources sont limitées, parce qu'on a très peu de ressources, on les met à l'hôpital. Quelque part, c'est l'endroit le moins efficace. Il faut le mettre ailleurs aussi pour que les patients, ils n'arrivent pas trop tôt à l'hôpital. De toute façon, notre marge d'améliorer les choses, c'est petit.
Karine Milsan, un mot, après je passe la parole au professeur Perromand.
Prévention, ce n'est pas le rôle de l'hôpital. Et ici, c'est ce qui est mis en exergue.
Professeur Perromors, d'une certaine manière, vous nous dites, vous, les patients arrivent trop tôt aux urgences, à l'hôpital, en France, dans votre service, et là, on les voit qui arrivent trop tard.
Oui, exactement. Moi, je pense que le reportage qu'on vient d'entendre a au moins un mérite, c'est de rappeler aux Français la chance qu'ils ont. Somme toute. Il faut, à mon avis, distinguer deux types de difficultés d'accès aux soins. Il y a l'accès géographique, qui est effectivement en train de devenir problématique de mon point de vue en France. Et puis, il y a aussi l'accès financier. Parce que dans le reportage qu'on vient d'entendre, elle disait qu'elle était obligée d'emprunter pour payer une consultation à 8 euros. Et là, sur ce sujet, je voudrais dire
pour
quand même...
Pour payer les frais de transport.
Voilà. Ouais. Malgré ce qu'on entend ici et là, en France, on reste quand même très très généreux. Je crois savoir que c'est le pays de l'OCDE où le reste à charge pour le patient est le plus bas. Et le plus bas.
Clarisse, ils sont à côté de vous, Opine Duchesne.
Oui, ouais, oui, tout à fait. Il y a l'accès aux soins, c'est deux choses. C'est l'accès physique, géographique à des soins, et c'est l'accès matériel, financier. Et de ce point de vue-là, en France, sur les questions financières, on est quand même particulièrement bien lotis.
Mais vous me disiez d'ailleurs, vous avez une vue assez radicale des choses lors d'une conversation en amont de cette émission. Vous me disiez qu'il fallait radicalement changer les choses, autrement on allait dans le mur.
Oui, moi je crois que cette espèce d'état-providence à la française a quand même évidemment beaucoup d'effets bénéfiques, mais aussi donne lieu à des dérives, et notamment celle de la déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui considèrent que la santé est un dû, que tout est gratuit, qui vont insister pour avoir un bon transport alors qu'ils sont valides, qui vont... refuser de sortir au troisième jour d'une intervention et dire non, moi je suis ici à l'hôpital et j'y reste, et on peut pas les mettre dehors. Et il y a tout un tas d'abus comme ça. Je sais que c'est difficile à entendre, alors que la situation est tendue par ailleurs, mais il y a beaucoup de patients et beaucoup de médecins aussi complaisants. Je crois qu'il faudrait responsabiliser tout le monde et faire comprendre aux Français la chance qu'ils ont d'avoir ce système de soins.
Alors ici, on s'adresse à un public qui est international, qui est très africain. Karine Milsan, est-ce que cette Afrique du Sud, là, qui se débat avec des problèmes de santé considérables, en tout cas pour la population la plus modeste, c'est quelque chose que vous évoquez, par exemple, dans votre livre « La Competition Between Hospitals ». Est-ce que la compétition entre le service public et le service de santé, puis les institutions privées, c'est quelque chose qui est partout en cours?
Aujourd'hui, je peux dire que c'est quasiment partout en cours. Il y a cette compétition, mais aussi complémentarité. C'est-à-dire que dans certains cas, les services ou les établissements publics sont surchargés et ils sont contents d'avoir des établissements privés capables de prendre en charge leurs patients. Donc c'est à la fois une certaine concurrence, effectivement, mais en même temps, ça permet d'avoir une espèce de vase communicant pour se décharger de certains patients. Il faut aussi bien avoir en tête que ce qui est offert par le privé n'est pas complètement ce qui est offert par le public. Ils ne sont pas sur les gammes de soins.
Et donc quand vous allez... Sur les mêmes ?
Pas du tout. Donc du coup, quand vous allez avoir une pathologie lourde, vous n'allez pas pouvoir vous faire soigner dans le privé. Il vous faudra aller dans le public. Puis ensuite, en revanche, rien ne vous empêche, une fois que vous avez eu la partie purement technique, d'être transféré vers un établissement privé. Donc c'est en ça qu'il peut y avoir à la fois de la concurrence pour certaines gammes, pour certains types de soins cataractes. Il peut y avoir effectivement de la concurrence entre les services publics et services privés, mais il y a également de la complémentarité.
Mais dans les pays en développement, ce n'est pas, ou dans les pays émergents, est-ce que c'est à la puissance publique d'assurer le développement des soins de santé au milieu hospitalier ou au privé?
Ça, c'est une très bonne question, effectivement, parce que couverture universelle, qui est un objectif de l'OMS, et des fois on pense que c'est une fin, mais en fait c'est n'est qu'un début. Une fois que vous avez dit à tout le monde que vous avez accès gratuit aux soins, quels soins et dans quel cadre? Et souvent dans les pays en voie de développement, il n'y en a pas de capacité. Ils ont besoin d'une capacité privée. Et le secteur privé, effectivement, joue un rôle, comme dit Karine Milsan, peut jouer un rôle pour combler un certain défaut de chirurgie programmée, certains services, etc. Après, à partir du privé à but lucratif, je pense que ça va de soi, ils ont besoin de faire de profit. Ils vont jamais investir dans un domaine
il ne peut pas faire de profit. C'est là qui est important le rôle, parce qu'en France, effectivement, nous avons un secteur privé important, mais ce secteur privé est extrêmement régulé quand même. Il y a des prix régulés, malgré le secteur 2, et il y a une régulation de qualité, ils sont sous les mêmes normes par rapport à la sécurité sociale. Mais dans un pays comme Afrique du Sud, et c'était dans le reportage, et je sais un petit peu la situation aussi, le nombre de cliniques privées, et le nombre de d'une part, il n'y a pas de ressources, d'autre part, il y a des normes d'intervention non justifiées. Le taux de césarien, par exemple, c'est une des plus élevées dans les pays comme Afrique du Sud, Brésil, la Turquie. Et Chine, exactement.
90%.
Exactement. Dans tous les pays en voie de développement, en fait, les taux de chirurgie questionnés, la pertinence, c'est les plus élevés.
C'est-à-dire, Karine Milson, qui ne sont pas...
Bah, vous pouvez toujours vous demander, mais les chiffres de l'OMS sur l'accouchement est de l'ordre de
17%.
Exactement.
Voilà.
Alors que là, on est de l'ordre de 80%. Exact. Juste, si vous permettez, si je dois regarder une vision globale, juste un mot. Au niveau international, il y a la question, et ça, beaucoup poussé par la Banque mondiale, c'est la question du panier de soins. Un panier de soins basique, offert par tous. En France, le panier de soins, le panier de soins offert par tous concerne quasiment l'ensemble des soins. Donc en ça, on a vraiment beaucoup de chance.
Oui. Professeur Perromort, c'est une chance ou c'est un inconvénient, ce panier de soins immense en France?
Moi, je pense qu'il est un peu complexe. C'est-à-dire, j'aurais tendance à le rétrécir. Et à faire en sorte que, évidemment, ce soit gratuit pour tout le monde, y compris dans le cadre de la CMU et de la ME, mais que pour les autres soins dits un peu plus légers, ce soit à la charge des patients, soit à la charge des complémentaires privés. Ça, c'est mon point de vue et c'est très personnel.
Alors, on va descendre un cran dans le niveau de développement économique. Tout à l'heure, on a commencé par parler de la France, pays développé, et l'Afrique du Sud, pays le plus riche et le plus puissant du continent africain. Voilà un autre pays, un autre niveau de développement économique, un autre exemple de difficulté hospitalière, la Bolivie, un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, au cœur des Andes. Le gouvernement de La Paz a lancé le 1er mars dernier un système unique de santé qui prévoit la gratuité pour tous. Mais les infrastructures ne suivent pas, les hôpitaux sont surchargés, il manque de moyens et le matériel est souvent obsolète. Les médecins cherchent à alerter sur cette situation et descendent dans la rue. Ils ouvrent les portes de leurs établissements pour montrer la réalité de l'hôpital public, car ils l'assurent, ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. À La Paz en Bolivie, c'est un reportage Éco-Dici-Éco d'ailleurs, signé Alice Campagnol.
Salle de soins intensifs de l'hôpital public des enfants à La Paz. Tous les lits sont occupés, à peine 9 places quand il en faudrait au moins le double. La situation est la même dans tous les services. Cet établissement pourtant est l'hôpital de référence pour une zone de plus de 2 millions d'habitants. Célia Limachi est infirmière dans cet hôpital.
Nous avons 160 lits, ils sont tous occupés. Comme c'est un hôpital de référence au niveau national, les patients viennent de partout et parfois on doit donner la priorité à ceux qui viennent de loin. Et ceux qui sont d'ici, on leur dit de revenir.
Mais ce ne sont pas seulement les lits qui manquent ici, le personnel et l'espace font aussi défaut.
L'OMS nous dit qu'une infirmière devrait être en charge de 8 patients. Ici, c'est le double. Une infirmière est en charge de 14, voire de 16 patients. Pour éviter les infections nosocomiales, il faudrait entre chaque patient un mètre ou un mètre et demi. Mais ici, il n'y a que l'espace d'une table de nuit.
Cet établissement est public, il accueille les plus démunis et les plus fragiles. Le système de sécurité sociale en Bolivie fonctionne par caisse, selon les secteurs professionnels, les mineurs, les étudiants, etc. Et avec le prestige de l'emploi, vient une meilleure sécurité sociale. Le docteur Rossel, par exemple, travaille pour la Caisse des banquiers, l'une des meilleures couvertures boliviennes.
Ici, nous avons une infrastructure adéquate qui correspond aux critères de qualité pour un établissement de santé. Par exemple, nous venons de pratiquer une chirurgie à cœur ouvert sur un nourrisson de 2 mois. Nous bénéficions donc d'une technologie de pointe. Nous avons également assez de personnel. En revanche, dans le système public, eh bien, il faut faire avec ce qu'il y a.
Son établissement n'a rien à envier à une clinique privée européenne. Oui, mais voilà, ses services sont réservés à peu d'élus. Jusqu'à l'année dernière, 50% de la population n'avait pas accès aux soins car une grande partie des Boliviens travaillent sans être déclarés, donc pas d'affiliation à une sécurité sociale. Mais le gouvernement a mis en place le système unique de santé depuis mars 2019, soit l'accès gratuit aux soins pour tous. Mais déjà surchargé, l'hôpital public déborde. 2 millions de personnes se sont inscrites depuis janvier. Alors, depuis plusieurs mois, les professionnels de santé manifestent. Edgar Villegas, du Collège des médecins de La Paz.
Le problème, c'est qu'il n'y a ni les moyens ni la structure adéquate pour prendre en charge environ 5 millions de Boliviens qui n'ont absolument aucune protection sociale.
Les personnels de santé bloquent les rues des grandes villes avec du matériel médical, des couveuses qui ont plus de 40 ans, des brancards éventrés. Les médecins veulent montrer à la population très concrètement leur situation. Et en cette année de présidentielle, pour eux, le système unique de santé est une décision électoraliste de la part d'Evo Morales.
Un reportage signé Alice Campagnol à La Paz. Professeur Perromort, vous l'avez écouté ce reportage, vous en pensez quoi de cette situation? Comment est-ce que vous la vivriez si vous étiez médecin bolivien?
Écoutez, c'est difficile. Il faudrait savoir quelles sont les mesures exactes qui ont été proposées. Ce que j'aime bien, c'est la phrase, la dernière, qui consiste à dire que c'est très électoraliste. Finalement, c'est assez démagogique, mais pas tellement efficace. Je pense que la gratuité pour tous, de mon point de vue, n'est pas applicable, ou alors ce serait un niveau de soins tout à fait catastrophique.
Vous voulez dire ce ne serait pas applicable à la Bolivie ou
Nulle part.
Nulle part. Même en France.
Nulle part. Et d'ailleurs, de mon point de vue, je vais peut-être en choquer certains, je ne pense pas que la médecine doive être gratuite.
Pourquoi ?
Parce que la médecine, c'est une valeur, c'est un savoir-faire, c'est un service rendu. On peut trouver des dispositifs pour que ce soit le moins cher possible, pour que ce soit le plus solidaire possible, mais ça ne doit tout simplement pas être gratuit.
Karim Misson.
Ici, pendant ce reportage, on a vraiment un problème de choc sur l'offre. Ils l'ont dit, il y a 2 millions de personnes en plus. Donc c'est ça qui est mis. Il y a eu deux mots-clés qui ont beaucoup été répétés aujourd'hui, c'est qualité et puis accès par le revenu qui pose problème. Mais laissez-moi répondre quand même à Monsieur Perromort parce que ça fait deux fois en fait que c'est revenu et je pense qu'il faut prendre conscience que ça pose question. Je n'ai pas si t'as tort ou raison, mais de dire que les soins primaires et les soins d'accès quand on va au médecin généraliste devraient moins être remboursés, tout ça, derrière tout ça, il y a la question de la prévention. Et donc du coup, si on commence à moins faire de la prévention, si on considère que les gens doivent prendre en charge leur prévention, il ne faut pas s'étonner ensuite d'avoir des gens atteints davantage lorsqu'ils vont à l'hôpital.
Zeynep Ors, ce reportage bolivien, il est emblématique de ce qui se passe dans les pays en développement?
Je pense que oui. Et la phrase que moi j'ai retenue, l'hôpital ne peut pas soigner tout le monde. Je pense que c'est vrai partout. Ça c'est vrai en France, mais aussi, c'est ce qu'on a vu au début. Mais dans les pays en voie de développement, c'est encore où les ressources sont très peu, c'est encore beaucoup plus catastrophique de ne pas créer une graduation de l'offre de soins. C'est ce qu'on a dit, parce que les hôpitaux ne peuvent pas soigner tout le monde. Donc, il faut décider quels sont les cas prioritaires. Ceci est d'autant plus important quand on a très très peu de ressources, comme on a vu dans cet reportage, je pense. Mais même ici, dans un pays riche comme la France, où on a quand même des ressources assez importante, on voit que l'hôpital ne va pas s'en sortir si on appelle cette logique de dire, mais c'est où le meilleur endroit pour le patient d'être soigné? Donc, ceci est une question de qualité, mais c'est aussi une question de économique, parce que, effectivement, de prévenir les choses en amont, offrir des soins en ville à la place de l'hôpital, c'est à la fois mieux pour l'état de santé des personnes et qualité des soins, mais aussi pour réduire la pression sur les établissements, les hôpitaux, qui sont quand même des ressources chères et limitées.
Bien, je pense que c'est une excellente synthèse de l'émission Zeynep Ors, qui nous fournit une fin parfaite. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI, Michael Perromort, Zeynep Ors et Karim Milson.
Merci.
Cette émission peut être podcastée sur le site internet www.rfi.fr ou via l'application Pure Radio sur votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.